programme de l'Université de Bordeaux 3. Français FC, cours de Monsieur Tocan. L'humanisme, deuxième émission.
La Renaissance a été le théâtre d'une crise religieuse très profonde qui aboutit à la Réforme. Sans prétendre donner une vue d'ensemble, même sommaire, des problèmes religieux de l'époque, nous allons examiner les effets de l'humanisme dans cette crise et les rapports complexes qu'il a entretenus avec le mouvement de réforme religieuse. Pour avoir une vue plus complète du problème, vous pourrez vous reporter au chapitre consacré à la question par Delumeau et surtout au livre fondamental de Lucien Febvre sur Rabelais et le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Le Moyen-Âge, nous l'avons vu, n'avait ni ignoré ni méprisé la pensée antique dans la mesure où il en avait connaissance. Mais la pensée médiévale, dans son ensemble, avait toujours affirmé que la révélation chrétienne devait juger la pensée humaine des anciens. L'humanisme, en accordant un statut tout privilégié à l'Antiquité, à ses penseurs, à ses sages et à ses grands héros, où il voyait des modèles exemplaires d'humanité, posait un problème. Concilier l'héritage antique avec la vérité chrétienne et les exigences de la morale évangélique, unir la sagesse antique et ce que saint Paul avait appelé la folie de la croix du Christ. D'autre part, l'humanisme se développe dans un climat de crise religieuse. Certains éléments de cette crise, comme les abus de l'Église, la décadence des ordres religieux, la négligence des évêques qui ne résidaient pas dans leur diocèse et se contentaient d'en toucher les revenus, n'étaient pas nouveaux. Ils avaient déjà souvent été dénoncés, sans qu'il en résulte de crise aussi grave qu'au XVIe siècle. La papauté de la Renaissance, plus préoccupée d'agrandir ses possessions, de bâtir des monuments, que soucieuse des problèmes spirituels, offrait matière à scandale. Mais la crise tenait à des causes plus profondes, à un climat d'inquiétude religieuse diffus dans la masse des fidèles. De multiples témoignages révèlent notamment un sentiment aigu de la faute et du péché, une angoisse de l'enfer, de la mort, une angoisse profonde du salut personnel, que le Moyen-Âge n'avait pas connu avec le même paroxysme. La piété populaire cherchait consolation dans le culte de la Vierge, des saints, des reliques, des pèlerinages, dans la vision d'un Christ souffrant et douloureux qui s'oppose au Christ en majesté du Moyen-Âge. Elle prête une voix souvent docile aux prédicateurs qui annoncent des malheurs imminents et prêche la conversion comme Savonarole à Florence à la fin du XVe siècle. Le besoin d'une spiritualité plus personnelle se manifeste aussi dans le développement de communautés marginales hétérodoxes dont les adeptes, appelés libertins ou spirituels, parce qu'ils s'affranchissaient de l'autorité de l'Église et se réclamaient d'une révélation directe de l'Esprit de Dieu, s'opposaient à l'Église institutionnelle. Cette dernière se montrait incapable de répondre à ce monde d'inquiétude et d'aspiration. La Réforme, et ce sera l'une des causes de son succès, apportera une réponse claire à cette inquiétude. L'idée d'une réforme de l'Église est dans l'air dès la fin du XVe siècle. On appelle la réunion d'un concile. Mais il faudra le choc de la réforme proprement dite pour que l'on comprenne la gravité de la crise. C'est dans ce climat incertain que l'humanisme fait son apparition au XVe siècle. L'humanisme, par certains de ses aspects, prépare la réforme. Cela se manifeste particulièrement dans son attitude à l'égard de la Bible. Les humanistes ont voulu appliquer à la Bible les méthodes d'érudition philologique qu'ils appliquaient à l'étude des textes antiques, c'est-à-dire retrouver le texte authentique de la Bible. Le grand humaniste italien Lorenzo Valla rédige dans la première moitié du XVe siècle des remarques sur le Nouveau Testament dans lesquelles il souligne les erreurs de la Vulgate, texte officiel de l'Église, qui était une traduction latine faite par saint Jérôme d'après le texte grec au 1er siècle de l'Église. Érasme, le grand humaniste landais, les publia lui-même en 1505 et en 1516 donna une édition du Nouveau Testament en grec où il s'efforçait de purger le texte des erreurs accumulées par les copistes. C'était là une nouveauté par rapport aux méthodes médiévales. Et réagissant d'autre part contre les abus des commentaires scolastiques, les humanistes ont voulu délivrer la Bible du poids de tous les commentaires que le Moyen-Âge avait accumulés autour du texte. Dans son Nouveau Testament, Erasme écarte les commentaires théologiques et métaphysiques traditionnels pour s'en tenir à des remarques plus brèves et au texte lui-même. Un humaniste français, Lefèvre d'Étaples, écrivait « On ne doit affirmer de Dieu que ce que nous apprenons de lui par l'Écriture. » On discerne ainsi dans l'humanisme le souci de s'en tenir au texte comme dans le domaine des lettres antiques. En ce sens, l'humanisme annonce déjà la réforme. D'autre part, les humanistes ont voulu que le texte de la Bible soit divulgué dans la foule pour permettre au lecteur de prendre un contact direct avec l'Écriture. L'imprimerie a permis une plus large diffusion des œuvres religieuses dans le public capable de lire à l'époque. De 1445 à 1520, on estime que 75% de la production de livres imprimés comprenait des livres religieux, et la Bible elle-même fut traduite en français en 1487. Les laïcs pouvaient ainsi avoir un contact direct et personnel avec la Bible, ce qui allait dans le sens d'une piété plus individuelle, correspondant à la montée de l'individualisme de l'époque, et ils pouvaient trouver eux-mêmes une réponse à leurs inquiétudes et à leurs questions. La voie était ouverte et facilitée à l'interprétation personnelle de l'Écriture bien avant la réforme protestante. Un auteur allemand, constatant que l'Allemagne était inondée de Bibles à la fin du XVe siècle, s'en plaignait. « On tourne, disait-il, et on retourne la Bible. On lui fait dire tout ce qu'on veut, et l'on met en péril et la foi et la Bible, qui est le fondement de la foi. » Ce mouvement de diffusion et de vulgarisation de la Bible n'est pas spécifiquement d'origine humaniste, mais il a été approuvé et encouragé par les humanistes, dont certains, comme Lefèvre d'Étaples en France, ont donné des traductions françaises du Nouveau Testament au début du XVIe siècle. Par ces traits, l'humanisme prépare la réforme en encourageant un contact plus personnel des croyants avec les textes bibliques. Le Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, avait été dominé par la philosophie d'Aristote. Mais à partir du XVe siècle, se développe à Florence tout un courant platonicien sous l'influence du philosophe Marcille Ficin, qui se fait le restaurateur et le propagandiste du platonisme. Il en extrait une philosophie de l'amour qui exercera une influence considérable sur toute la Renaissance. Retrouvant dans les philosophes et la religion de l'Antiquité comme des esquisses de la révélation chrétienne, Ficin définit une sorte de théologie naturelle, commune à tous les hommes, qui se manifeste dans les différentes religions sous des formes différentes. Un Dieu qui est lumière, bonté et amour, et attire à lui par la beauté de son œuvre, l'homme qui ne doit pas s'arrêter à la jouissance des beautés sensibles, mais s'élever au-dessus d'elles pour se joindre à la beauté divine, dont les choses créées sont le reflet. Justifiant l'art et l'amour du beau, accordé au goût des artistes contemporains avec lesquels Ficin était en rapport, cette philosophie conservait au christianisme une place privilégiée, mais elle tendait à affaiblir la nécessité de la révélation et de la foi, à dissoudre le christianisme dans l'ensemble plus vaste de la théologie naturelle. Son contemporain, Pic de la Mirandole, séduit par la philosophie hébraïque, pensait que la Bible ne contenait qu'une partie de la révélation dont il fallait chercher le complément dans la tradition hébraïque de la Kabbale. Il semble bien qu'il ait mis en doute sur d'autres points l'enseignement traditionnel de l'Église. Avec lui s'affirme une tendance de l'humanisme à réfléchir librement sur les problèmes religieux sans se soumettre à la juridiction de la théologie traditionnelle. À partir de la fin du XVe siècle, s'affirme par ailleurs tout un mouvement d'inspiration humaniste en faveur d'une réforme de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'évangélisme, dont le représentant le plus caractéristique est Érasme, qui a connu une gloire internationale à l'époque. Érasme a cherché à définir ce qu'il appelait la philosophie du Christ, c'est-à-dire une religion intérieure fondée sur l'amour du Christ et la pratique des vertus évangéliques, débarrassée des superstitions populaires et des spéculations théologiques qui l'encombraient et qu'Érasme méprisait profondément. Une religion personnelle, nourrie par la lecture de la Bible, accordant moins d'importance aux sacrements et aux rites extérieurs. Érasme a aussi dénoncé les abus du clergé de l'époque. Il a attaqué la vie monastique en refusant d'y voir le sommet de la vie chrétienne. Vous pourrez lire l'un de ses ouvrages les plus célèbres, L'éloge de la folie, écrit en 1511, aisément accessible, et vous y trouverez exprimé sous une forme ironique la réaction de scandale que le spectacle de l'Église pouvait provoquer à l'époque chez un lettré humaniste. Érasme a d'autre part édité dans ses adages, souvent réimprimés à l'époque et constamment enrichis, un recueil de proverbes antiques dont la sagesse lui paraissait toujours actuelle. Il voit dans les anciens des maîtres de sagesse et il retire de leur exemple une leçon de confiance dans la nature humaine. Les sages, les philosophes anciens comme Platon, les grands hommes de l'Antiquité montrent que tout n'est pas corrompu par le péché dans la nature, qu'il existe dans l'homme, comme il l'écrit, une inclination, une propension profondément instinctive au bien, et que l'homme a la possibilité de connaître, si imparfaitement que ce soit, quelque chose de la vérité, qu'il a la possibilité de vivre conformément aux lois de la conscience. Par sa correspondance, par ses multiples opuscules, par ses relations européennes, Érasme a exercé une profonde influence. Il représentait pour beaucoup de contemporains une tendance réformatrice qui voulait purifier le christianisme sans rompre avec l'Église, dont Érasme n'a jamais nié l'autorité. En France, un humaniste, Lefèvre d'Étaples, développe de son côté la vision d'une religion intérieure de tendance plus mystique, fondée sur la lecture de l'Écriture et la pratique des vertus évangéliques. Vers les années 1520, se forme autour de lui et de l'évêque de Meaux, Brissonnet, un groupe de réformateurs qui entreprennent de rénover la prédication, de purifier le culte, de donner à la masse des fidèles une religion plus véritablement chrétienne. Brissonnet entretient une correspondance avec la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre, qui écrit de son côté des poèmes d'inspiration mystique. Grâce à elle, le groupe bénéficie de la protection royale. C'est à cette inspiration de l'évangélisme qu'il faut sans doute rattacher Rabelais. Comme les humanistes de son temps, Rabelais méprise la théologie scolastique décadente, le ritualisme formaliste qui encombre la vie religieuse. Il donne à ses héros une pratique religieuse où se retrouve un écho de l'évangélisme. Lecture de la Bible, contact personnel avec les textes sacrés, tel est le programme de vie religieuse que Gargantua développe dans la lettre célèbre à Pantagruel. Rabelais a écrit une lettre à Érasme où il le célèbre comme son maître. On retrouve effectivement dans son œuvre un écho érasmien. Le tiers-livre ne comporte pas beaucoup d'allusions aux problèmes religieux. Mais il faut noter pourtant que le livre est dédié à Marguerite de Navarre, dont Rabelais connaissait les aspirations mystiques. La dédicace précise bien que son livre n'est pas mystique, mais elle ne comporte pas de critique à l'égard d'une forme de vie spirituelle que Rabelais laisse de côté sans pour autant la récuser. On a prétendu que le tiers-livre serait une œuvre où Rabelais aurait allusivement et prudemment prêché en faveur de l'évangélisme à un moment où la politique royale se montrait plus hostile aux tendances réformatrices. C'est une hypothèse qu'il est difficile d'admettre. Tout au plus, peut-on remarquer que les consultations de Panurge, qui aboutissent toutes à des échecs, sont une sorte d'invitation à rechercher la vérité sans se soumettre aux autorités officielles qui sont incarnées par les personnages du médecin, du théologien et du philosophe. Rabelais semble bien suggérer, une fois de plus, que c'est à l'homme de chercher par lui-même comment vivre, au lieu de s'en remettre paresseusement à d'autres. Il est aussi certain que le philosophe incarne, une fois de plus, la scolastique décadente dont Rabelais s'était déjà moqué. La préface comporte une allusion violente contre les cafards et bigots qui désignent les théologiens hostiles à l'humanisme et à ses démarches. Le poète Ramin Agrobis meurt en refusant de recevoir des personnages qui veulent l'aider à son dernier instant. Ce sont des moines et panurges que Rabelais représente en l'occurrence comme un personnage attaché au passé, s'inquiète fort de son salut. C'est une poigne contre les moines et l'esprit de superstition. On a voulu voir dans Ramin Agrobis un personnage réel, le poète Mellin de Saint-Gelais, qui passait pour hétérodoxe, et on a pensé que Rabelais faisait dans cet épisode une apologie de l'incroyance. Rien n'est moins sûr, et même cette hypothèse est à peu près indéfendable. Enfin, la consultation du théologien Hippotadée a aussi prêté à discussion. On a dit que Rabelais se moquait purement et simplement de la théologie, d'une science fausse, incapable de répondre aux questions réelles de l'homme. En fait, le théologien développe une conception du mariage tout inspirée de la Bible et où se retrouve aussi le souvenir de conceptions érasmiennes qui avaient écrit dans le même sens. Le discours du théologien n'est pas ridicule. Il souligne même la grandeur d'une union entre l'homme et la femme qui est analogue à celle du Christ et de son Église. Mais on peut, si l'on veut, voir dans ce discours un bon exemple d'idéalisme théologique qui méconnaît la réalité. En effet, comme le dit Panurge, la femme forte de la Bible, dont le théologien fait le portrait exemplaire, est un rêve. La pensée de Rabelais, on le constate, est en fait difficile à saisir. Et le grand danger surtout est de vouloir prêter à l'auteur les idées qu'il prête à ses personnages. Nous retrouvons dans le tiers-livre ce qui est l'essentiel et rapproche une fois de plus Rabelais de l'évangélisme, une démarche libre de pensée, ce qui ne veut pas dire une démarche de libre pensée. L'humanisme s'était heurté très vite dans ses audaces religieuses au tenant de la tradition. La faculté de théologie, la Sorbonne, condamne les livres de Rabelais, y compris le tiers-livre. Rabelais n'a pas été un martyr, il n'en avait d'ailleurs pas le goût, mais comme Érasme, il s'est heurté à l'opposition des Sorbonnagres dont il s'était si souvent moqué. Il avait la chance de bénéficier de la protection royale et d'être l'ami de théologiens humanistes qui pensaient comme lui que l'Église avait besoin de réformes. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans le siècle, la situation va se modifier. Les humanistes avaient espéré une réforme de l'Église dans l'Église. Le rêve d'Érasme s'écroule quand, en 1521, Luther est condamné par la diète de Worms et refuse de se soumettre. C'est la naissance officielle de la réforme protestante et la fin de l'unité de l'Église. Comment va réagir l'humanisme en face de cet nouvel état de choses ? L'humanisme avait à bien des égards, nous l'avons vu préparer la réforme, et il avait souhaité avec l'évangélisme une réforme. Mais son esprit profond ne peut s'accommoder d'une théologie comme celle de Luther, qui insiste sur la déchéance de l'homme, la puissance du péché, qui ruine l'optimisme de l'humanisme et refuse la conciliation de la sagesse antique et de la révélation comme l'avait rêvé Érasme. Au fur et à mesure que la réforme s'affirme et confirme son anti-humanisme, beaucoup d'humanistes prennent parti contre elle. Érasme avait suivi d'abord avec intérêt et bienveillance les efforts de Luther, mais il adopte vite une attitude de neutralité puis d'opposition. Luther le condamne et Érasme polémique avec lui en soulignant contre lui la liberté de l'homme, ses puissances de vérité et de bien. Il refuse une théologie qui, selon ses propres termes, exagère les effets du péché originel. Dénoncé par Calvin comme impie en 1550, Rabelais attaque le calvinisme dans le quart-livre. développant dans le chapitre 23 le mythe de Physis et d'Antiphysis, il oppose les produits de la nature, qui a enfanté beauté et harmonie, à ceux de l'antinature, qui engendre des êtres difformes, et parmi eux, les démoniaques Calvin, imposteurs de Genève. Avec son ascétisme rigoureux, sa théologie de la grâce qui limite la liberté humaine, le calvinisme représente pour Rabelais la négation de la nature. Ainsi se révèle l'opposition entre l'optimisme de l'humanisme, sa volonté de développer harmonieusement toutes les facultés humaines et l'esprit de la réforme. D'autres humanistes se détachent de toute orthodoxie et travaillent à élaborer une sorte de religion naturelle capable de réconcilier les différentes religions dans un esprit de tolérance. Cependant, l'humanisme continue tout au long du siècle à être une force vivante, où se poursuit le dialogue entre l'Antiquité et le christianisme. Ronsard nous offre d'abord un cas significatif. Sa poésie amoureuse est étrangère à toute inspiration religieuse ou platonicienne. Il ne voit pas dans la femme et sa beauté le point de départ d'un amour qui, comme l'avait affirmé Marcille Ficin, peut s'élever par degrés à la connaissance du divin. Il évoque dans ses hymnes des fables antiques et mythologiques qui l'enchantent par leur beauté. Dans ses odes, à la manière d'Horace, il chante les plaisirs charnels de la vie, l'amour, le vin. Il a aimé la gloire et a rêvé de s'immortaliser comme les héros antiques par la gloire de la postérité. Par tous ses traits, Ronsard apparaît comme une sorte de personnage païen. Et pourtant, il affirme rester chrétien. Il est hostile à la réforme protestante et le proclame officiellement dans ses discours en 1562 et 1563. Il reconnaît les abus de l'Église, mais repousse une nouveauté théologique qui constitue une menace pour l'autorité royale et l'unité du pays. Attaqué par des pasteurs de Genève dans ses mœurs et sa vie privée, il se justifie et affirme la pureté de sa vie et de sa foi. Ronsard offre le spectacle déconcertant d'une personnalité qui unit en elle une âme antique et une foi chrétienne, sans qu'il ressente la conscience d'une contradiction ou d'un conflit entre deux mondes aussi différents. Il représente un exemple caractéristique de tout un aspect de la Renaissance que précisément la Réforme mettra en cause. Comme beaucoup de ses contemporains, Ronsard porte en lui plusieurs mondes qui coexistent sans se confondre ni s'opposer. Le cas de Montaigne illustre un autre aspect des rapports entre humanisme et christianisme. Né chrétien et mort chrétien, Montaigne n'a pas mis en doute les vérités de sa foi. Vivant en pleine guerre de religion, il condamne la réforme parce qu'elle représente une nouveauté ruineuse pour la paix civile et qu'elle prétend juger de ce qui est inaccessible à la raison humaine. L'apologie de Raymond de Sebonde vise en partie les protestants. Elle affirme l'incapacité de l'homme à saisir par lui-même une vérité qui ne peut lui être donnée que par révélation et qu'il faut accepter sans essayer de la justifier. Ainsi, des raisons théoriques fondées sur les limites de la connaissance humaine et des raisons pratiques fondées sur l'observation des malheurs que provoquent les querelles théologiques à l'époque même de Montaigne l'invite à détourner sa curiosité des matières de foi. Mais Montaigne aboutit ainsi à respecter la foi de ses ancêtres sans pratiquement la faire entrer dans son horizon. Il cantonne les vérités de sa foi religieuse dans une sphère étrangère à l'exercice de sa pensée qui se développe ainsi à côté de la foi qu'il accepte, mais rejette dans une sphère lointaine étrangère aux problèmes de la vie concrète. Sans prendre une position hostile au christianisme, la réflexion de Montaigne ne se nourrit pas de l'Évangile, comme le voulait Erasme, mais de la sagesse antique et de son expérience personnelle. Elle aboutit à une sagesse toute humaine. Avec lui, se dégage ainsi l'aboutissement d'une tendance virtuelle de l'humanisme, c'est-à-dire l'autonomie de la réflexion par rapport à la vérité religieuse. Pourtant, l'humanisme n'aboutit pas seulement à ce phénomène de juxtaposition ou de dissociation dont Ronsard ou Montaigne offrent l'exemple. En fait, la tradition humaniste s'incorpore peu à peu à la pensée religieuse. Du côté de l'Église catholique, d'abord, les jésuites, qui multiplient leurs collèges d'enseignement à partir de la fin du siècle, adoptent une pédagogie de type humaniste, qui se fonde pour une large part sur la connaissance des textes antiques, étant bien entendu qu'il s'agit de textes choisis et expurgés. Mais il reste entendu que le contact avec les lettres antiques est un élément essentiel de toute éducation. Or, c'est par les jésuites que l'Europe catholique, pour une large part, sera formée. Du côté de la réforme protestante, malgré les anathèmes lancés par Luther au début du siècle contre l'Antiquité et les humanistes, l'étude de l'Antiquité n'est pas en fait éliminée. En Allemagne, tout particulièrement, le disciple préféré de Luther, Melanchthon, arrivera à réintroduire l'étude des anciens et de la philosophie antique dans le cycle de l'éducation. L'humanisme n'a cessé d'avoir des rapports ambigus et complexes avec les problèmes religieux. Il a d'abord préparé en un certain de ses aspects la réforme et il a souhaité des réformes. Ce fut le rêve de l'évangélisme et d'Érasme. Souhaitant un retour à une religion plus intérieure, débarrassée de ses superstitions populaires et des problèmes théologiques insolubles où s'était accomplie la scolastique finissante, souhaitant une religion fondée sur la connaissance directe de la Bible, l'humanisme voulait retourner aux sources bibliques comme il a voulu retourner aux sources antiques. Ce faisant, il réagissait contre un passé proche et un présent dégradé. Ce rêve de réforme à l'intérieur de l'Église échoue. D'autre part, en inaugurant une étude philologique de la Bible, l'humanisme ouvre la voie à l'exégèse moderne de la Bible. Mais la réforme protestante, si elle prolonge certains aspects des espoirs de l'évangélisme, propose une vision de la nature humaine qui est en opposition avec l'optimisme humaniste. C'est le moment de la rupture, avant que l'avenir n'apporte des accommodements. Plus profondément, l'apparition de l'humanisme manifestait une désagrégation de la culture médiévale chrétienne. L'humanisme florentin du XVe siècle avait cherché à montrer comment concilier la sagesse et la philosophie antique et le christianisme. Le Moyen-Âge avait réussi une synthèse dans la scolastique entre la Révélation et Aristote. L'humanisme n'a pas réussi cette synthèse. En mettant au jour brusquement la culture antique dans son ensemble, l'humanisme a introduit dans la culture européenne des éléments étrangers au christianisme, incompatibles avec lui, et comportant une force capable de disloquer l'édifice de la culture chrétienne médiévale. En France, c'est Montaigne qui révèle ce caractère le plus important. Avec lui, la pensée humaine cesse de se référer essentiellement à une vérité religieuse absolue. Elle s'engage dans une démarche autonome, et au lieu de prendre pour objet central de sa réflexion Dieu et la révélation, elle prend pour objet central de sa méditation l'homme envisagé en lui-même dans ce qu'en révèle l'expérience. C'est le passage de ce que l'on appelle une conception théocentrique à une conception anthropocentrique où se manifeste de manière caractéristique un aspect essentiel de l'humanisme.